Face aux auditeurs avec Jérôme Godefroy
dans RTL Midi.
Alain Cazenave, président de l'association SOS Papa, est votre invité aujourd'hui pour parler de la garde des enfants en cas de divorce au 3210.
Bonjour Monsieur Cazenave.
Bonjour.
Qu'est-ce que ça vous inspire d'abord cette affaire de Xavier Fortin, donc qui a vécu pendant 11 années cachée avec ses deux fils, alors que les deux enfants étaient réclamés par la mère?
Bien, un grand gâchis encore, une famille victime de la justice familiale. C'est-à-dire que aujourd'hui, encore beaucoup de gens ne comprennent pas que quand un couple décide à un moment donné d'avoir des enfants, c'est une décision extrêmement lourde et que ça veut dire que ces enfants, on devra les aimer et les éduquer jusqu'à ce que les enfants n'en aient plus besoin. C'est-à-dire que c'est un investissement extrêmement important. Et par conséquent, si à un moment donné le couple décide de se séparer, parce qu'ils ne s'entendent plus, ils devront néanmoins continuer de cohabiter et de co-éduquer ces enfants.
Et quand, pas cohabiter forcément, il peut y avoir la garde alternée.
Non, pas bien évidemment cohabiter, mais co-éduquer les enfants. Ça implique des relations permanentes pour tout ce qui concerne l'éducation de l'enfant, tout ce qui concerne sa santé, son bien-être, ses loisirs, etc. Or, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens n'admettent pas ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'il y a séparation et un des deux parents décide, ça a été le cas de la famille Fortin, un des deux parents décide de partir à 1000 km, 500 km. Et à partir du moment où un des parents prend cette décision extrêmement lourde de mettre 500, 1000 km entre les deux parents, eh bien il met les enfants dans une situation absolument catastrophique parce que les enfants ne pourront plus continuer d'avoir des liens forts, des liens normaux avec leurs deux parents. Ce qui est pourtant un droit qui leur est reconnu par le droit international des enfants, qui dit qu'un enfant a droit à ses deux parents. Alors quand en plus, pour compliquer la situation, vous avez une justice familiale qui entérine cet éloignement d'un des deux parents, qui valide le fait qu'un parent parte à 1000 km, eh bien là, on est dans une impasse totale, une impasse judiciaire, qui fait qu'il n'y a plus aucune bonne solution pour cette famille. C'est ce qui s'est passé avec l'affaire Fortin, c'est ce qui se passe avec quantité d'affaires aujourd'hui en France.
On va voir ce qu'en pensent les auditeurs de RTL. Alain Cazenave, président de l'association SOS Papa. On va commencer par Jean-Marie, qui est en région parisienne. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour.
Vous êtes sur RTL, nous vous écoutons.
Oui, sur le plan juridique, je veux dire que je soutiens la personne en question, parce qu'elle s'est soustraite, j'allais dire, aux décisions judiciaires.
Là, vous parlez de Monsieur Fortin, oui.
Exactement, oui. Mais pour ne pas le citer. Mais j'étais en garde alternée. Bon, j'avais fait la demande de l'alternance qui a été accordée par le magistrat, puisque mon ex-femme habitait à côté de chez moi. Elle travaillait également. J'ai eu un peu de difficulté parce que je suis VRP, donc j'étais amené à me déplacer. Mais j'ai expliqué au magistrat que je pouvais organiser mon travail. Bon, ça a été accepté. Mais malheureusement, la garde alternée est tombée à l'eau, puisque mon ex-femme a déménagé, et donc il a fallu que je repasse au tribunal pour faire valoir mes droits. Il a fallu attendre 6 mois. Pendant ce temps, je continuais de payer la pension alimentaire pour mes deux enfants, puisque je payais une pension au départ pour les deux enfants en garde alternée, ce qui est un petit peu quand même un petit peu fort. Enfin, j'avais été décidé comme ça, je l'ai accepté. Et aujourd'hui, j'ai ma fille qui est venue me rejoindre, puisqu'elle a refusé de continuer à vivre chez sa mère, parce qu'elle se sentait pas encadrée, donc j'avais des recommandations.
Jean-Marie, vous avez le sentiment que dans ce genre d'affaires, la justice privilégie plutôt les femmes que les hommes, les mamans,
si vous voulez,
les papas?
Quand vous passez aux affaires familiales, tous les magistrats, la plupart, j'ai dans 95% des cas, sont des femmes, et je trouve qu'il y a un parti pris quand même. Bon, et moi, je trouve qu'il serait plus normal que lorsque vous passez devant un magistrat qui est à la fois un homme et une femme, ce serait partagé. Bon, c'est difficile à faire, certainement, je ne sais pas. Mais je pense qu'il y a quand même parti pris. Les jeunes magistrates aujourd'hui, je pense, agissent différemment. Moi, j'ai eu affaire à une magistrate qui était plus âgée. Même si elle a accepté la garde alternée, il y a eu un divorce qui a été prononcé au tort exclusif pour mon épouse, contre mon épouse. C'est elle qui a eu tous les torts. Et j'ai malheureusement été, d'ailleurs c'est marqué dans le délibéré, condamné, vous voyez le mot est bizarre, condamné à payer quand même une prestation compensatoire. Condamné alors que bon...
Je voudrais entendre le sentiment d'Alain Cazenave de l'association SOS Papa. Ce que dit Jean-Marie, vous le confirmez dans votre expérience, dans les cas que vous connaissez, Alain Cazenave?
Alors, bon, il y a effectivement, aujourd'hui, on peut employer le mot, hein, le terme, un sexisme assez important de la justice familiale, comme vient de le dire votre interlocuteur. Mmh. Effectivement, dans un autre domaine que vous connaissez bien, qui est celui de ce qu'on appelle les prud'hommes, c'est-à-dire la justice entre les salariés et les patrons, eh bien, on estime normal d'avoir un collège de juges qui soit composé à la fois de patrons et à la fois de salariés, parce que justement, on sait très bien qu'un salarié a du mal à comprendre un patron a du mal à comprendre un salarié. Eh bien, en justice familiale, votre interlocuteur a raison. Il est tout à fait étonnant que pour statuer sur des problèmes de couple, il puisse y avoir une justice composée quasiment exclusivement de femmes, c'est-à-dire aussi bien au niveau du juge que des enquêtrices sociales, que tout le personnel qui tourne autour de cette justice familiale. Alors évidemment qu'ensuite on a une justice qui prend très mal en compte le problème du lien père-enfant. Alors ce monsieur évoque également un deuxième sujet qui est assez révélateur. Aujourd'hui, les juges sont extrêmement réticents, s'il y a un tout petit conflit, à accorder une résidence alternée, ce qui est extrêmement dommage, parce qu'aujourd'hui la résidence alternée est quand même bien la seule solution valable. Et beaucoup de pères sont obligés d'acheter, je dis bien acheter, la résidence alternée en accordant néanmoins une pension alimentaire pour essayer justement de mettre toutes les chances de leur côté, c'est-à-dire de privilégier justement le lien avec leur enfant, même s'ils doivent pour cela se mettre un peu en difficulté financière.
On va marquer une petite pause avant de poursuivre en remerciant au passage Jean-Marie qui nous appelait de la région parisienne. D'autres témoignages vont suivre.
Face aux auditeurs,
dans RTL Midi.
Face aux auditeurs, avec Jérôme Godefroy,
dans RTL Midi. 32-10 pour parler du divorce, de la garde des enfants et des conséquences avec le président de l'association SOS Papa, Alain Cazenave.
Et bien sûr, nous en parlons à l'occasion du procès de Xavier Fortin qui va commencer à Draguignan dans une demi-heure à peu près. C'est ce papa qui, pendant 11 ans, a caché ses deux fils qui étaient réclamés par leur mère. Bruno, près de Barbezieux en Charente, bonjour.
Oh oui, bonjour Jérôme.
Nous vous écoutons avec Alain Cazenave de l'association SOS Papa.
Bonjour Monsieur Cazenave.
Bonjour.
Ben voilà, je me félicite que vous soyez. Évidemment, j'ai pas eu droit à ça parce que bon, malheureusement, ça n'existait pas encore en 1998, enfin du moins vers la Charente. Mais c'est-à-dire que j'aurais peut-être pu avoir un recours parce que moi, ça fait maintenant 11 ans, pratiquement mois pour mois, que je ne vois plus mes deux filles. Donc voilà, j'ai...
Vous savez où elles sont au moins ?
Oh oui, je sais où elles sont, oui, mais bon, j'ai eu des courriers de leur part qui étaient vraiment, bon, disant que j'étais pas le père. Il y avait 3 ans de divorce en disant que je devais 10 ans de pension à la mère. J'ai photocopié toutes les lettres, le juge qui est une femme également. N'a rien voulu savoir et ils ont reçu un dossier en recommandé avec accusé réception. Ça n'a jamais été au bout du jour. Ça n'a jamais été remis.
Que disait la décision de justice ? La garde a été confiée à qui au départ ?
Eh ben, la garde a été confiée à la mère avec bien sûr des gardes d'enfants tous les 15 jours,
les droits de visite scolaires, ouais.
Voilà, exactement. Donc bon.
Mais ça n'a pas été respecté par la maman alors du tout ?
Voilà, j'ai déposé une plainte pour non-présentation d'enfants.
Ouais.
Suite à ça, il y a eu une procédure. J'ai fait un courrier pour le tribunal demandant juste que mon droit soit respecté. Je ne voulais pas de dommages et intérêts ni rien. Je voulais uniquement que ce droit de visite soit respecté. De là est venue une médiation qui a duré exactement 3 semaines. La mère avec les 3 enfants donc a quitté en date du 25 avril 98 a quitté l'association. Donc, ça voyait que les questions étaient un petit peu trop embarrassantes avec la psychologue, avec les responsables du centre. Elle a quitté. Elle s'est contentée de dire à son avocate que j'avais déposé une deuxième plainte pour non-présentation d'enfants.
On va pas rentrer dans toute la procédure, Bruno, mais quel âge elles ont, vos deux filles ?
Mes deux filles, il y en a une qui va avoir 24 ans le 24 avril et il y en a une qui va avoir 20 ans le 2 juin.
Donc elles sont majeures, si elles veulent vous retrouver, elles peuvent le faire.
Voilà, c'est un petit peu ça que je regrette parce qu'elles ne veulent rien savoir. J'ai eu un petit peu la réponse par mon fils qui me côtoie toujours, bien sûr, qui a 27 ans lui. Et je l'ai récupéré, donc bon, ça a été extrêmement long. Il y a eu des vices de procédure qui m'ont été après par la suite, quoi, parce que j'étais pas au courant de tout.
Alain Cazenave, il n'y a plus pas tellement de recours là pour Bruno.
Une fois que les enfants sont majeurs, non, effectivement, il n'y a plus de recours, puisque parce que tout ce qui est autorité parentale ne concerne que les enfants mineurs en termes de droit.
Voilà, exactement. Ouais.
Mais par contre, ce que dit monsieur est assez révélateur. C'est-à-dire qu'il a un jugement qui lui donne un droit de visite, ce que nous appelons droit de visite, le minimum syndical, parce qu'un week-end sur deux, c'est totalement insuffisant, mais il a néanmoins un droit de visite qu'il n'arrive pas à faire respecter sur ce qu'on appelle les non-représentations d'enfants, qui aujourd'hui sont une véritable plaie au niveau de tout ce qui est justice familiale. Et là, au lieu que la société, les forces de l'ordre, l'aident à voir ses enfants, à voir ses enfants pendant ce droit de visite qui lui a été accordé par une décision de justice, eh bien non, les forces de police vont dire qu'elles ne peuvent rien faire, les juges ne vont pas prendre en compte les plaintes. La seule chose que l'on va déclencher, c'est une médiation. Mais c'est tout à fait étonnant, c'est qu'il faut que monsieur, qui a un jugement qui lui donne un droit de visite, aille supplier madame, au cours d'une médiation, de respecter ce droit de visite. C'est quand même tout à fait surprenant. Je veux dire, c'est quelque chose qu'on ne comprendrait pas dans un autre domaine. Hein. Imaginez, je fais un parallèle un peu abusif, mais imaginez, on vous vole votre voiture, et puis les forces de l'ordre, plutôt que de demander aux voleurs de vous restituer la voiture, vont vous proposer une médiation avec le voleur. Est-ce que vous voulez bien me rendre ma voiture? Non, ça n'a aucun sens. Il faut quand même qu'un jugement soit simplement respecté pour bien comprendre que celui qui ne respecte pas, que ce soit le papa ou que ce soit la maman, qui ne respecte pas un droit de visite, c'est quelque chose de très grave envers l'enfant. C'est-à-dire qu'on prive l'enfant d'un de ses droits les plus fondamentaux, qui est de bénéficier de l'amour et de l'aide de ses deux parents. Donc c'est totalement inacceptable.
Là tout de même, Bruno, vous pourriez rentrer en contact avec vos deux filles. Elles sont grandes, elles sont adultes.
Oui, mais elles ont déjà refusé. De ce qui est encore plus grave, c'est que quand elles sont juste adolescentes, qu'on les incite à dire que je ne suis pas le père, on les incite à dire plein de choses complètement.
Et pourtant, la justice avait tranché en votre faveur.
Hein. Ouais, c'était en ma faveur, mais bon, c'est le mal il est fait, et puis bon, j'ai mis extrêmement longtemps avant de m'en remettre, et puis bon, au jour d'aujourd'hui, bon, j'y refais un peu ma vie, mais bon, c'est très bien qu'il y ait des associations comme ça, qui insistent de plus en plus pour faire respecter, tous les droits qui ressortent des tribunaux, enfin notamment des juges aux affaires familiales, parce que bon, c'est pas vivable, quoi, c'est pas vivable. J'ai vécu un enfer pendant 4, 5, 6 ans, et c'est pas vivable.
Merci Bruno d'avoir témoigné sur RTL. On va marquer une petite pause, oui. Alain Cazenave, à nouveau, on continue notre dialogue dans un instant.
Appelez Jérôme Godefroy au 3210. Face aux auditeurs,
dans RTL Midi.
Face aux auditeurs, avec Jérôme Godefroy,
dans RTL Midi. Le divorce et la garde des enfants, c'est le thème aujourd'hui avec Alain Cazenave, président de l'association SOS Papa, sur RTL.fr et au 3210.
Et d'autres sujets peuvent également susciter des commentaires de votre part au 3210. On peut parler de ces déclarations du pape Benoît XVI qui va arriver en Afrique d'un instant à l'autre. C'est sa première visite dans ce continent ravagé par le sida. Et le pape, dans l'avion, a dit que le préservatif était une aggravation par rapport au problème du sida. Donc, nouvelle déclaration du pape concernant ce sujet. On peut parler également du bouclier fiscal. Faut-il, oui ou non, le supprimer? Nicolas Sarkozy vient de dire qu'il était hors de question. Et puis, les végétariens sont mieux résistants au cancer que les autres. Et enfin, c'est la Saint-Patrick. Si vous êtes irlandais, vous n'êtes pas irlandais, eh bien, vous pouvez avoir envie d'en parler au 3210. On revient à nos affaires familiales, c'est le cas de le dire, avec le cas de Xavier Fortin, qui va être jugé aujourd'hui à Draguignan pour avoir gardé avec lui pendant 11 ans ses deux fils qui étaient réclamés par leur mère. Et on est donc avec Alain Cazenave de l'association SOS Papa et avec Marcel qui est dans Lyon. Bonjour Marcel.
Oui, bonjour Jérôme, bonjour monsieur. Bien, tout d'abord, je souscris aux propos de Monsieur le Président de SOS Papa.
Oui.
Je voudrais également souligner que si ce père a pris les chemins de traverse de la loi...
Là, vous parlez de Monsieur Fortin, hein?
Oui. Monsieur Fortin, voilà. Ses enfants, qui sont ses meilleurs avocats, tiennent à l'engage équilibré, tant à son égard qu'à celui de la maman, et qu'il témoigne que ce père n'a pas eu une volonté délictuelle, mais plutôt a eu le souci de leur bonheur. Il est vrai que la maman a dû avoir une grande souffrance, mais justement, la maman s'associe elle-même à cette volonté d'apaisement judiciaire, et je souhaite pour ma part qu'on n'ajoute pas de la souffrance à de la souffrance par la justice.
Vous êtes concerné par ce genre d'affaires, Marcel ?
J'ai connu le problème moi-même, j'ai connu l'enfer, j'ai écouté l'un des auditeurs qui ont précédé, j'ai connu l'enfer judiciaire d'une procédure pendant 3 ans, j'ai été complètement exclu de la vie de ma fille, avec laquelle j'entretenais les meilleurs liens affectifs.
Elle avait quel âge à l'époque, Marcel, votre fille ?
Comment ?
Quel âge avait-elle à ce moment-là ?
Elle avait 11 ans à l'époque.
Elle avait 11 ans, d'être une petite fille,
Et alors, j'ai, par le biais d'une procédure qui a aggravé les choses à l'extrême, d'une procédure de divorce pour faute, mais qui était mensongère à l'extrême, eh bien, on m'a exclu, puis après, tout est tombé à l'eau. Mais le gâchis avait été fait, et ma fille a eu une image du père qui était vraiment déplorable. Et c'est pour ça que je me bats, à l'heure actuelle, pour qu'on en arrive à une déjudiciarisation du divorce, car la séparation des couples, ça n'est pas de la criminalité, c'est une affaire privée et essentiellement humaine. Et j'estime que toute séparation, en se plaçant dans le créneau des couples normaux, je ne parle pas des couples qui relèvent du code pénal, les violences conjugales, l'inceste, etc., mais toute séparation devrait débuter par la médiation familiale. Et là, on favoriserait vraiment l'apaisement.
Alain Cazenave, vous pouvez apporter un commentaire, Alain Cazenave, à ce que vient de dire Marcel.
Oui, tout à fait. Oui. Marcel fait un constat que nous faisons effectivement absolument tous les jours, et que je confirme absolument complètement, c'est que la justice familiale a tendance à être générateur de conflits et non pas d'apaiser le conflit. Nous voyons quantité de gens arriver chez nous dans nos permanences avec un conflit faible en début de séparation jusqu'à ce que le juge et des fois certains avocats rentrent en ligne de compte. Et à partir de ce moment-là, apparaissent des fausses accusations parce que chacun des deux parties cherche absolument à salir l'autre parent. En fait, ce qui se passe, c'est que le juge met les deux parents en compétition. Le juge dit, il y a conflit entre vous deux, donc je ne donnerai pas de résidence alternée, ce qui serait pourtant la seule solution intelligente pour obliger les deux parents à s'entendre. Mais au lieu de ça, le juge va dire, il y aura un des deux parents qui aura la résidence principale de l'enfant, sont tous les droits, et l'autre parent aura un droit de visite minimaliste qui n'arrivera d'ailleurs peut-être même pas à exercer ce que nous ont déjà dit les intervenants précédents. Bon, à partir de ce moment-là, le juge dit « Maintenant, je vous écoute, on va voir lequel des deux va gagner. » Eh bien, je vous affirme qu'il n'y a aucun des deux qui gagne. En fait, ce sont les enfants qui perdent.
Justement, le traumatisme pour les gosses, ça doit être terrible, parce qu'il y a un méchant et un gentil, quoi.
Mais exactement. Et il y a, chez les enfants, se développe quelque chose de très connu qui s'appelle donc un conflit de loyauté extrêmement violent, et ce conflit de loyauté aboutit de façon quasiment systématique à ce qu'on appelle le syndrome d'aliénation parentale, c'est-à-dire que l'enfant rejette un des deux parents, et en particulier rejette le parent avec lequel il ne vit pas. Et là, je voudrais rebondir sur ce sujet, parce que ça fait déjà 2 intervenants qui parlent de ce sujet. Quand vous êtes séparés de vos enfants pendant 3, 4, 5, 6 ans, il ne faut surtout pas croire que c'est parce que ensuite les enfants vont devenir adultes qu'ils vont reprendre contact avec le parent de qui ils ont été séparés. Parce que pendant ces années de séparation, il s'est produit de tels dégâts dans la tête des enfants que après c'est totalement mort. Il ne faut pas croire que l'enfant devenu majeur va chercher à renouer contact. C'est ça tout le problème, toute la difficulté. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'affaire dont on parle aujourd'hui de Draguignan, l'affaire Fortin, est une affaire qui est relativement exemplaire. Parce que contrairement à ce qui se passe habituellement, contrairement aux faits qui ont été rappelés par tout à l'heure deux intervenants, eh bien les enfants, malgré 11 ans de séparation avec la mère, sont heureux de retrouver leur mère, comme c'était encore confirmé il y a quelques instants. Et moi, j'ai eu personnellement ces enfants au téléphone, je peux vous dire que pour eux, il n'y a pas, de la part des enfants, de rejet de la mère ou de guerre contre la mère. Ils cherchent, ils sont contents d'avoir retrouvé leurs deux parents, et tout ce qu'ils veulent maintenant, la seule chose qu'ils souhaitent, eux, c'est revivre avec des contacts réguliers avec le père, avec la mère, pareil pour le père et pareil pour la mère. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est uniquement de savoir si la justice familiale, tout à l'heure à Draguignan, sera aussi intelligente que l'ensemble de cette famille, ou au contraire, va s'acharner à détruire cette famille retrouvée.
Marcel, vous avez quelque chose à ajouter ?
Oui, je voulais vous soumettre une expérience que j'ai eue. Je suis un ancien policier. Et à la lumière de l'expérience que j'ai eue, j'ai pratiqué avant l'heure une forme de médiation familiale.
Oui.
Et j'ai connu un couple qui se déchirait depuis 5 ans pour la garde d'un enfant. et à coup de procédures réciproques qui étaient conseillées par leurs avocats respectifs. Et lorsque j'ai vu le père arriver pour la énième fois déposer plainte, pour, moi je le voyais pour la première fois, je lui ai proposé, je l'ai écouté longtemps, environ 2 heures, et je lui ai proposé de tenter une médiation familiale. Eh bien, je résume les choses, ça a duré, j'ai reçu successivement le père, l'enfant, la mère, et puis comme chaque conjoint avait reconstitué un couple, les autres conjoints qui étaient associés à ce conflit. Eh bien, au bout de quelques semaines, j'ai réuni tout le monde, et la mère qui depuis 5 ans faisait des difficultés pour confier l'enfant, proposait à l'enfant d'aller chez son père alors que c'était pas la période du droit de garde. Et en sortant du commissariat, un couple recevait l'autre couple chez lui, toute la nuit discutait autour d'un verre, et ultérieurement, il n'y a plus jamais eu de problème. Et même, l'un des couples se mariait et invitait le second couple à son mariage, vous voyez.
Très belle histoire, Marcel, qui prouve qu'on peut toujours, enfin quelquefois en tout cas, s'arranger en parlant et en confrontant les points de vue. Merci beaucoup Marcel, on continue avec Alain Cazenave dans un instant avec d'autres témoignages sur cette affaire.
Face aux auditeurs avec Jérôme Godefroy
dans RTL Midi.
Face aux auditeurs avec Jérôme Godefroy
dans RTL Midi. Et vous parlez ce midi des enfants et du divorce avec Alain Cazenave, le président de l'association SOS Papa au 3210.
Et Marie qui est à Douai, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes sur RTL avec Alain Cazenave, effectivement.
Voilà. Bah alors moi, je voulais vous dire qu'en fait, tout dépendait de la place que le papa voulait prendre. C'est-à-dire que moi, je me suis séparée de mon ex-mari, j'étais enceinte de 4 mois. Nous avions déjà une petite fille qui était âgée de 4 ans et demi à l'époque. Ouais. Dans un premier temps, donc après vu les circonstances de la séparation, j'aurais très bien pu faire en sorte qu'il n'ait un droit de visite que minimum légal, comme on disait tout à l'heure, un week-end sur deux, la moitié des vacances. Ce que je n'ai pas voulu, j'ai souhaité qu'il ait une garde alternée. Donc comme on habitait à 2 kilomètres l'un de l'autre, ça ne changeait rien, ne changeait pas de nounou, ne changeait pas d'école. Tout le monde y trouvait son compte. Et on avait prévu de faire de la garde alternée à partir du moment où notre petit aurait 1 an. Tant qu'il était tout petit, je le gardais avec moi. Il avait 1 week-end sur 2, la moitié des vacances, et 1 mercredi sur 2. Ce qui me semblait bien, puis je savais qu'il s'occuperait bien de ses enfants.
Et ça n'a pas marché ?
Eh bien écoutez, figurez-vous que du jour au lendemain, eh ben, il a décidé d'aller habiter dans le sud parce qu'il fait plus beau dans le sud.
Ça aussi, c'est son droit, ça peut arriver, ça.
Oui, mais aller faire comprendre à une petite fille de 5 ans et demi qui déjà ne vivait plus avec son papa et sa maman, qu'en plus, elle allait plus voir son papa, c'était très compliqué pour elle. Et puis mon petit garçon qui a 20 mois, je veux dire, là, maintenant, à l'heure actuelle, depuis le 1er août que son papa a déménagé, ils n'ont vu leur père que 10 jours. 10 jours depuis le 1er août. Donc c'est quelque chose qui... moi je sais pas, moi la place de mon ex-mari, je lui avais laissé plus que ce que certaines femmes, elles, peuvent faire par rapport à ça. Moi, la seule chose que je voyais, c'était le bonheur et le bien-être de mes enfants. De toute façon, un enfant a besoin de son père et de sa mère pour grandir.
Alain Cazenave, qu'est-ce qu'on peut faire quand le papa ne veut apparemment pas jouer son rôle?
Alors là, effectivement, la société devrait au contraire essayer de motiver, d'encourager les papas comme les mamans à leur responsabilité, parce que on a coutume de dire, par erreur, les parents ont des droits. Non, les parents ont des devoirs. Et donc ce que dit cette dame est totalement exact et pertinent. Quand on fait un enfant, on a des devoirs. Qu'on soit le papa ou la maman, on a le devoir de s'occuper de ses enfants, de les aimer, etc. Et ça doit être la priorité. Donc là, ce papa avait la chance d'avoir une maman qui justement laissait toute cette place et il n'en a pas, manifestement il est là un petit peu, si j'ai bien compris, fuit ses responsabilités. Alors ce qui est tout à fait étonnant, c'est que donc manifestement on sent que cette maman aurait souhaité que le papa de son enfant s'investisse plus et prenne plus en compte ses responsabilités. Et bien quand des pères prennent ses responsabilités, veulent absolument eux s'occuper de leurs enfants, et bien là la justice les en empêche. Alors que ça devrait être l'inverse, la justice devrait au contraire être moteur, être...
Excusez-moi,
Marie.
Ouais, je vous coupe parce qu'en fait, moi là c'était la maman qui vous parle, et maintenant je vais vous parler en tant que belle-maman, parce que depuis j'ai refait ma vie avec quelqu'un qui lui-même, qui est lui-même papa de deux enfants, mais avec deux mamans différentes. Et en fait, donc, il a une petite fille de 5 ans. Et on aimerait pouvoir obtenir une garde plus ou moins élargie. On ne demande pas forcément de l'alterner, parce qu'avec son travail, ça risque d'être compliqué. Mais quand il est en repos la semaine, qu'il puisse aller la chercher à l'école, qu'il puisse lui donner son bain, s'occuper d'elle, aller la reconduire à l'école le lendemain matin. Ça, ce serait qu'une ou deux journées par semaine. Par exemple, on n'y arrive pas. C'est pas possible.
Et en plus, Marie, je précise que vous êtes puéricultrice, donc les enfants, oui. ça vous occupe
tout
beaucoup.
Fait,
hein.
Oui. Ouais. Voilà.
Bon, on va entendre d'autres témoignages pour terminer cette séquence. Merci Marie à Douai. Jean-Paul dans les Ardennes à Charleville-Mézières, bonjour.
Oui, bonjour cher Rome.
Nous vous écoutons, Jean-Paul.
Mais écoutez, c'est très simple. Vu votre invité, vu ce que j'ai entendu aux différents témoignages sur l'antenne, moi je viens un petit peu en renfort à M. Fortin, qui lui a pris ses enfants, les a éduqués. Peut-être qu'il était hors la loi. Moi, je me suis toujours conformé à la loi. C'est-à-dire que maman avait la garde, je paye une pension alimentaire. Et malgré tout, avec tous les droits élargis qui me sont consentis par le juge, eh ben, je ne vois plus ma fille.
Qui a quel âge, votre fille ?
Oui.
Quel âge a-t-elle ?
Ma fille, elle va avoir 14 ans.
D'accord. Et vous la voyez plus depuis combien de temps ?
Ben, depuis un an.
D'accord.
Alors, ça a été au travers d'un décès malheureux de la grand-mère, je l'accorde. Et puis après, c'est au travers de plusieurs... procédure judiciaire.
Mais là je pense, Alain Cazenave, qu'il y a des recours pour Jean-Paul quand même, non ?
Tant que l'enfant est mineur, oui. Ce qu'il faut préciser, parce que c'est quand même très important, c'est que les statistiques indiquent qu'en cas de droit de visite et d'hébergement, hein, c'est-à-dire quand il n'y a pas de résidence alternée, quand on est dans cette espèce de minimum syndical, même si dans le cas de monsieur, ça a été un peu élargi, quand on est dans ce droit de visite et d'hébergement, c'est tellement difficile à gérer un droit de visite et d'hébergement, surtout s'il y a un petit peu de conflit, qu'au bout de 3 ans, 30% des enfants perdent tout contact avec le parent qui voyait en droit de visite d'hébergement. C'est-à-dire que monsieur, le cas de ce monsieur, représente 30% des parents qui vivent en situation de droit de visite et d'hébergement. C'est donc extrêmement classique, beaucoup plus classique qu'on ne le croit. Le droit de visite et d'hébergement est quelque chose qui ne marche pas s'il y a du conflit entre les deux parents.
Jean-Paul, j'espère que ça va s'arranger pour vous. On va terminer cette séquence concernant les familles et le problème de la garde des enfants avec Gérard à Amiens. Bonjour Gérard.
Oui, bonjour.
Il y a quelque chose d'important qui s'est passé dans votre vie. Hein.
Ah oui. Moi, ça fait 20 ans que je n'avais pas vu mon fils. Et en début d'année, il s'est manifesté. Il m'a envoyé un mail en disant « Bonjour papa ». Ça doit te faire drôle de voir ce mot-là, mais...
Donc il avait vécu avec sa maman.
Avec sa maman.
Vous étiez séparés. Alors quel âge il avait votre fils quand vous êtes séparés ?
11 ans.
11 ans, et donc pendant 20 ans, vous ne l'avez pas vu ?
Pendant 20 ans.
Aucune nouvelle ?
Plus nous, j'ai essayé au début, puis bon, il n'y avait pas de retour, donc j'ai arrêté.
Il habitait loin, vous le saviez où il était, votre fils ?
Oui, puisque je versais une pension, donc je savais sa nouvelle adresse.
Mais vous aviez renoncé à toute démarche pour le revoir ?
Ben, c'était pas évident pour le revoir. Hein. Je n'avais pas de numéro de téléphone, je n'avais qu'une adresse. D'accord.
Et donc, là, vous l'avez revu. Comment ça s'est passé ?
Là, je vais le voir là.
Ah, vous ne l'avez pas encore revu, oui.
Mi-avril. Bon, on a des contacts téléphoniques toutes les semaines, deux ou trois fois. On a des solutions de webcam le week-end.
Ah, vous l'avez déjà vu par webcam, par Internet. Et ça vous fait quoi ?
J'en ai eu les larmes aux yeux au début, fatalement. Et ça fait du bien, quoi. Il me manquait quelque chose, quoi.
Alain Cazenave, cet exemple de Gérard nous montre bien, on va conclure là-dessus, que toutes ces affaires, c'est des avocats, des tribunaux, des démarches, des recours, mais c'est surtout des êtres humains qui se déchirent et qui souffrent.
Complètement. Des êtres humains qui souffrent, des parents qui souffrent et surtout des enfants qui souffrent. Et l'exemple de ce dernier auditeur est très marquant. Les enfants souffrent, mais quand ils sont petits, ils souffrent, mais sans comprendre pourquoi ils souffrent. C'est tout leur problème. C'est uniquement lorsqu'ils deviennent adultes, et c'est souvent lorsqu'ils ont eux-mêmes des enfants.
Exactement.
Le fait d'avoir des enfants, brutalement se dit, mais si moi j'ai un enfant... Et si j'adore mon enfant, j'ai également un père, donc brutalement, on a envie de reprendre contact avec ce père. Mais c'est ça le déclencheur. Et apparemment,
c'est le cas pour vous, Gérard ? Votre fils a des enfants ?
C'est le cas. Il m'a annoncé que j'étais papy d'une petite fille de 2 ans.
Voilà. C'est tout à fait classique. Ouais. Et c'est très beau. Enfin, c'est très émouvant, mais c'est tout à fait classique. C'est ce déclencheur, le fait d'avoir un enfant, qui rappelle qu'on est soi-même issu de toute une lignée, qu'on a des parents, qu'on a toute une histoire, et que l'on a envie de reprendre contact avec ses cette histoire. Et c'est tout à fait important de comprendre que les liens du sang, contrairement à ce qu'on cherche à faire croire aujourd'hui, hein, aujourd'hui il y a des gens qui cherchent à faire croire que la famille sociale pourrait être plus importante que la famille de sang. Mais non, un enfant, lorsqu'il est adulte, a envie de connaître son histoire, de savoir qui sont les gens,
connaître l'entrée,
etc., ses racines. Tout ça, c'est extrêmement important pour quelqu'un.
Merci beaucoup Gérard à Amiens de nous avoir raconté cette histoire qui se termine bien pour vous. Et on remercie aussi Alain Cazenave, président de l'association SOS Papa, qui a accompagné notre dialogue sur ce sujet. On va passer à autre chose et aux déclarations du pape Benoît XVI sur le préservatif.
RTL Midi. Les auditeurs ont la parole. Jérôme Godefroy.